La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Pour comprendre comment la candidate du Front National peut se retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle, sans doute faut-il mobiliser de très nombreux facteurs explicatifs. Mais parmi toutes les causes qui expliquent la présence, 15 ans après son père, de Le Pen au deuxième tour d'une présidentielle, l'une me semble jouer un rôle considérable qui mérite d'être soulignée. Cette cause est aussi la cause du Front National, le thème sur lequel a prospéré ce parti, dont les responsables ont été régulièrement condamnés pour avoir tenu des propos racistes et négationnistes. Ce thème, vous l'avez compris, c'est celui de l'immigration, comme dit Le Pen fille, des immigrés, comme dit Le Pen père. Le tour de force qu'aura réalisé le FN et ses deux leaders successifs, avec la complicité plus ou moins consciente d'un nombre considérable d'autres acteurs sociaux, responsables politiques, journalistes, intellectuels, c'est d'être parvenu à installer durablement l'idée absurde et dangereuse selon laquelle il conviendrait d'être pour ou contre l'immigration. Contre, bien entendu, s'agissant du FN, mais aussi progressivement de plus en plus d'hommes et de femmes politiques d'autres partis et jusqu'à la gauche, voire l'extrême gauche, de plus en plus de journalistes et autres commentateurs. C'est de cette idée aussi simple qu'abjecte que j'aimerais consacrer cette suite dans les idées d'entre-deux-tours, une émission avec l'immigration, une émission avec François Héron, auteur d'un livre qui est titré « Avec l'immigration ». François Héron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et démographe. Vous avez pendant une dizaine d'années dirigé l'Institut National d'Études Démographiques. Vous avez également dirigé la division des enquêtes et des études démographiques d'une autre institution qui est l'INSEE. Et vous publiez aux éditions La Découverte, avec l'immigration, mesurer, débattre, agir. Alors, je voudrais que l'on parte de cette idée que j'ai résumée dans le chapeau, la façon dont s'est installé progressivement dans le débat public en France, le fait de savoir dans quel camp on se trouvait, si l'on était pour ou contre l'immigration. Vous avez des images très fortes pour faire passer l'idée que cette idée n'a aucun sens. Vous dites, par exemple, c'est comme si on devait être pour ou contre le vieillissement. François Héron.
Oui, effectivement, cette idée, elle est devenue tout à fait absurde. Je crois que notre débat sur l'immigration sera mûr, sera mature quand on aura dépassé ce stade. Mais c'est un peu la même chose avec le peuple. Être pour ou contre le peuple, c'est également un thème de campagne important. Alors, un de mes arguments, qui est purement démographique et fondé sur un constat, c'est que nous avons quasiment maintenant un quart de la population vivant en France, qui est soit immigrée, soit enfant d'un ou de deux immigrés.
22% exactement, oui, selon 10% d'immigrés,
12-11% d'immigrés, 12-13% d'enfants d'immigrés, c'est-à-dire les immigrés, ce sont bien les gens qui étaient nés étrangers à l'étranger, qui ont franchi la frontière, qui se sont installés pour une durée d'au moins un an, et puis les enfants d'immigrés ne sont pas immigrés, ils n'ont pas franchi la frontière, ils sont nés sur place, et cette seconde génération, comme on l'appelle maintenant un peu partout en Europe, c'est 12-13%, donc on arrive quasiment. Alors, quand il y a un quart de la population qui est liée à l'immigration sur une ou deux générations, la question de savoir si on est pour ou contre, évidemment, devient un petit peu absurde. De même, d'ailleurs, que la question du coût de l'immigration. Que coûte un quart de la population, trois quarts restants? On comprend bien que ça n'a plus de sens.
C'est une façon de poser le problème, voilà, pour le moins étrange.
Voilà, ça n'a plus de sens. Donc, en vérité, on sait bien qu'évidemment, ça n'est pas n'importe quelle immigration qui est visée, et que derrière tout ça, il y a quand même de plus en plus l'islam, la question de l'assimilation. Donc, je ne dis pas que l'immigration ne pose aucun problème, que c'est facile, que tout ça se passe comme une lettre à la poste. Je ne dis pas ça du tout. Il y a toute une série de questions à examiner.
À commencer par la discrimination, d'ailleurs.
Voilà, absolument. Mais, si vous voulez, moi, je donne un nouveau sens au mot immigrationniste. Vous savez, les immigrationnistes, c'est dans le langage de Marine Le Pen, c'est ceux qui sont pro-immigration. Mais je crois qu'en réalité, l'immigrationnisme, il faudrait le redéfinir comme étant le fait de tout voir à travers le prisme de l'immigration. Et en ce sens, Marine Le Pen est complètement immigrationniste. Elle considère absolument tous les problèmes socio-économiques au prisme de l'immigration, ce qui est, enfin, évidemment, est totalement outrancier.
Mais pour en arriver à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il s'est trouvé quand même beaucoup de gens pour accepter de formuler le problème comme ça. Alors, ça me semble très intéressant de voir un chercheur comme vous analyser la manière dont les choses se sont progressivement installées, enquistées dans le débat public de la sorte, Parce qu'au fond, ça me semble correspondre exactement à ce que doit faire la recherche, c'est-à-dire non pas toujours apporter des réponses extraordinairement précises, mais déjà commencer par bien poser les questions et remettre en cause des problématiques qui sont de mauvaises problématiques, de fausses problématiques, des problématiques qui posent pour le coup d'énormes problèmes. Or, il me semble qu'on est rentré dans une ère où on oppose aux réponses apportées à une problématique proposée par le Front National, du fact-checking. Alors on va mesurer pourquoi ce que dit Marine Le Pen est fausse, alors que en fait, ce qu'il faut remettre en question, c'est la manière même de poser la question.
Alors, le démographe que je suis est aussi sociologue et anthropologue. Et donc, effectivement, il n'y a pas que l'objectivation des faits, il n'y a pas que la mesure. C'est un élément essentiel, il faut le maîtriser. Et il y a un débat, il y a une controverse sur les faits objectifs. Il faut s'intéresser aussi aux représentations. Moi, ce qui me frappe, par exemple, je le signale à plusieurs endroits dans le livre, c'est que on a d'un côté les gens qui ne se sentent plus chez eux en France parce qu'il y a trop d'immigrés, mais on a aussi exactement le phénomène inverse, qui est très intéressant aussi, qui a été illustré par la fameuse rumeur du 9-3. Vous êtes dans des zones où il n'y a quasiment pas d'immigration, traditionnellement, comme l'ouest de la France, certaines la Champagne, par exemple, et dès que commence à apparaître une certaine petite fraction, si minime soit-elle, d'immigrés visibles, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que vous, des rumeurs se sont enclenchées, notamment la fameuse rumeur du 9-3. Je vous invite à aller regarder le site Wikipédia sur la rumeur du 9-3, qui est spécialement bien documenté et qui raconte comment, dans des villes comme Niort, Poitiers, Chalon, en Champagne, etc., on s'est répandu la rumeur comme quoi eh bien, les municipalités accueillaient des migrants de la Seine-Saint-Denis en échange de subventions venant de la Seine-Saint-Denis. C'était une rumeur. Benoît Paru, par exemple, a porté plainte contre cette rumeur. Hein. C'est allé assez loin. Et là, c'est un peu ce qui se passe aussi en Allemagne de l'Est. Vous avez très très peu de migrants, même pas 5% de la population quand on additionne les deux générations. Mais c'est là qu'il y a le plus de xénophobie. Donc, la peur de l'étranger peut naître dans des contextes très différents. Le sentiment qu'on est dans une zone où avant il n'y avait pas d'étrangers, maintenant il y en a beaucoup, pas d'immigrés maintenant. Il y a beaucoup l'idée d'un monde qui a changé. Et c'est vrai que le monde a changé. Je ne le nie absolument pas. J'insiste même au contraire sur le fait que il n'y a jamais eu autant d'immigrés que maintenant. Ça, il faut le dire, c'est vrai. Et la composition de ces immigrés a formidablement changé, puisque la part de l'Afrique, dont le Maghreb, c'est aux alentours, c'est plus de 40% maintenant, alors que c'était 15% en 1975. Donc tout ça, ce sont des changements qui sont visibles, qui sont perceptibles par l'opinion publique, il ne faut surtout pas le nier. Mais en même temps, ce que j'explique, c'est que, et on le voit quand on lit beaucoup d'auteurs, l'idée qu'on pourrait régresser, revenir à l'époque de notre enfance, revenir aux anciennes proportions, réécrire l'histoire avec tous ces titres nostalgiques qui évoquent la mélancolie, etc., l'identité malheureuse. Non, on ne peut pas réécrire l'histoire. Et donc, que l'on soit, quels que soient vos sentiments à l'égard de l'immigration, il va falloir travailler à vivre avec elle et à essayer de résoudre tous les problèmes d'intégration de tous les côtés, comment la société intègre, comment les migrants acceptent de s'intégrer, la question des valeurs, la question de l'accueil, la question du rapport entre religion et laïcité, tout ça, ce sont nos vrais problèmes, mais on ne peut pas les résoudre en rêvant d'abolir l'immigration comme certains veulent le faire.
Alors, vous dites, François Héron, il y a des représentations, il n'y a pas que les chiffres, mais évidemment, il y a les chiffres, vous êtes un statisticien. Et on s'aperçoit que ceux qui tiennent le discours de la régression dont vous parliez à l'instant, ceux qui voudraient revenir à un âge qui, d'ailleurs, en tant que tel, n'a jamais vraiment existé comme ça, sont aussi souvent ceux qui ne supportent pas les chiffres. Ceux qui opposent aux chiffres l'expérience individuelle et il n'y a qu'à sortir dans la rue pour voir que. Et là, on voit monter en puissance un discours anti-sciences sociales et anti-statistiques sociales qu'on peut trouver assez inquiétant.
C'est très curieux quand vous regardez les différentes déclarations des dirigeants du Front National à ce sujet. Ils peuvent, en l'espace de 2 minutes, dire que le spectacle de la rue, c'est bien mieux que l'INSEE, ça vous dit bien mieux la vérité des choses, et en même temps exiger de l'INSEE davantage de statistiques. Alors, il faut savoir qu'il y a en France une méfiance assez généralisée dans l'opinion publique. Il y a une enquête du CEVIPOF qui s'occupe de ça, vis-à-vis des chiffres de l'immigration. Mais en fait, j'ai regardé ça de près, vis-à-vis de tous les chiffres relatifs aux réalités sociales, les chiffres du chômage, les chiffres de l'indice des prix, etc. Il y a à peu près que 30% de la population française qui y croit, entre guillemets. Donc l'immigration ne fait pas exception à la règle. C'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai rapport entre... un vrai problème hein, de la relation des grands instituts statistiques, l'INSEE, qui est quand même une sacrée administration. C'est 5000 personnes, l'INSEE. Hein, c'est pas rien, c'est une grande organisation qui nous est enviée dans le monde entier, qui marche bien. Il y a aussi des organismes de recherche, dont l'INED. Comment faire pour que tout ce travail d'établissement des faits puisse passer auprès de l'opinion publique? Moi, je m'y emploie, par exemple, à travers ce genre d'ouvrage. Mais enfin, ces instituts que je cite là font un travail énorme de mise à disposition des données, de publication aussi pédagogique possible auprès des journalistes, des enseignants, etc. Il faut, voilà. Mais c'est vrai que nous nous heurtons. Eh bien, aux fake news, nous nous heurtons à l'idée que les chiffres, après tout, c'est n'importe quoi, ça se manipule à loisir. Et là, il y a quelque chose que je voudrais dire, qui est important, qu'on ne dit pas assez, que d'ailleurs je ne l'ai pas dit dans le livre. On ne peut pas raconter que chaque année, il y a une portion considérable d'immigrants qui échapperaient à l'observation statistique, parce que ça c'est multiplicatif d'année en année. C'est comme autrefois, lorsque la CGT avait son propre indice des prix, qui montait toujours plus que l'indice des prix officiel. Au bout d'un certain temps, ça se multiplie. Et le décalage devenait tel que c'était complètement irréaliste et la CGT est obligée de revenir à la base et de repoursuivre. On ne peut pas raconter année après année sans introduire une formidable incohérence qu'on manque le plus gros de l'immigration. Parce qu'à ce moment, ça voudrait dire que nos recensements, nos enquêtes sont toujours de plus en plus mauvais année après année et que l'écart finirait par atteindre des millions. Non, il y a... quelque chose qui est formidable dans la science statistique, c'est la cohérence des données à travers le temps. Et ça, c'est évidemment un élément de vérification important. Mais il faut bien le dire, la culture statistique est quand même peu répandue en France. Elle est très peu répandue dans le personnel politique. Et moi, je suis très frappé quand je vais, par exemple, aux Pays-Bas ou au Canada, que je rends visite à des sous-ministres, c'est-à-dire des directeurs d'administration centrale ou à des hommes politiques. Ils ont des PhD, ils ont fait des PhD d'économie, de sociologie, de droit. Et ils ont une connaissance des outils d'objectivation de la science sociale très supérieure à ce qui existe chez les énarques, par exemple. Donc, on a un vrai déficit, là, de ce point de vue.
Ce que vous dites du monde politique ou administratif vaudrait évidemment aussi pour l'univers médiatique.
Sans doute.
Également. Alors, dans ce livre, François Héran, il y a beaucoup de choses où vous regardez, par exemple, les programmes politiques s'agissant de l'immigration, les programmes pour cette élection présidentielle ou pour les élections primaires qui ont précédé. Et s'agissant de la candidate du Front National, vous regardez ce programme, mais pour en évaluer le caractère irréaliste, au fond, plutôt que de vous projeter dans l'avenir, comme certains auteurs l'ont fait, vous en éprouvez les propositions en regardant en arrière et en dressant le bilan de Nicolas Sarkozy. Expliquez-nous ce choix de méthode.
Alors d'abord, je caresse encore l'espoir sans doute tout à fait vain que l'électeur est un être rationnel et qui, avant de faire son choix et de se prononcer sur des mesures d'avenir, se dit, mais après tout, telle ou telle solution, qu'est-ce qu'elle a donné pendant toutes les années, on les a appliquées. Je rappelle, parce qu'on finirait par l'oublier, que Sarkozy a eu la haute main, Nicolas Sarkozy a eu la haute main sur la politique migratoire de la France, pas seulement pendant le quinquennat Sarkozy-Fillon, mais pendant 9 ans, puisqu'il a été 4 ans ministre de l'Intérieur, en 2 périodes très très proches.
Sous la présidence de Jacques Chirac.
sous la présidence de Chirac, il y a eu un petit intervalle Villepin, mais qui n'a pas duré longtemps. Et on peut dire qu'il a eu vraiment les moyens de sa politique depuis 2005. Donc c'est quand même très long. Que s'est-il passé pendant ce temps-là? Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, en lisant vraiment de façon aussi exhaustive que possible tous les livres programmes de tous les candidats, y compris aux primaires, il faut un peu d'abnégation pour faire ça, c'est qu'il n'y avait jamais d'évaluation sérieuse de la politique migratoire depuis 10 ans. Par exemple, la fameuse politique d'immigration choisie, qui a totalement échoué. On s'est jamais rapproché, à aucun moment, de l'objectif consistant à faire en sorte qu'une migration professionnelle sélective dépasse numériquement l'immigration familiale ou d'asile, etc., dite subie, alors qu'elle était en fait légale. Bon, on s'en est jamais rapproché. Cet objectif, on n'est même pas allé dans cette direction-là. Donc, pourquoi ? Et la question qu'il faut se poser quand on évalue comme ça une politique publique, alors j'avais fait cette évaluation il y a 10 ans dans Le Temps des immigrés, qui était un essai publié dans les collections de Pierre-Rosan Vallon, c'était une évaluation un peu ex ante, comme disaient les économistes, a priori. Là, 10 ans après, les faits se sont passés et on constate que ça a échoué. Pourquoi ? Eh bien parce que la grande majorité, l'immense majorité des migrants qui entrent dans le pays entrent parce qu'ils en ont le droit. Ils viennent pas pour réparer la pyramide des âges, ils viennent pas pour combler les manques, les trous de la population active, même s'ils se présentent sur le marché du travail, évidemment, et même s'ils remplissent des emplois dont les Français généralement ne veulent pas, ça c'est absolument clair. Ils viennent d'abord parce qu'ils en ont le droit, et parce que nous appliquons, et là les associations, les magistrats évidemment jouent leur rôle, plus que dans d'autres pays sans doute, nous appliquons les droits de l'homme universel, ce qui est le droit de vivre en famille, le droit d'épouser qui l'on veut et de faire venir son conjoint. Le droit pour un enfant de vivre avec ses parents, le droit pour un enfant de ne pas payer pour le statut illégal de ses parents, par exemple. Ce sont des choses qui...
Ou pour un étudiant de venir
étudier. Ce quasi-droit, finalement, qui est en train de prendre forme, au fond, de faire des études dans une bonne université à l'étranger, et c'est quand même 60 000 personnes chaque année venant de pays non européens qui entrent à ce titre. Et la France, notamment avec son agence France Campus, fait une publicité du tonnerre pour attirer les étudiants. Nous faisons partie des 4 ou 5 pays au monde qui attirent le plus les étudiants. Et c'est évidemment une bonne chose pour le
rayonnement du
pays. Mais oui, bien sûr. Avec l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Enfin, nous faisons partie des 5 ou 6 pays performants dans ce domaine. Donc voilà un peu le tableau.
Donc ça veut dire qu'il y a 200 000 personnes. Alors, à peu près.
Oui, il y a une petite controverse récente sur laquelle je voudrais quand même dire deux mots. Il y a eu un creux en 2007. Dans ces 200 000, on est descendu sur quelque chose comme 175 000 ou 180 000 parce que c'était la mise en place de la grande loi Sarkozy de 2006 et la création du ministère de l'immigration qui fusionnait ou rapprochait les quantités de services jusqu'à l'isoler. Donc ça retardait tous les dossiers. Donc on était déjà très proche de 200 000 en 2005. Retard technique en 2007 et ensuite c'est revenu, c'est reparti de plus belle aux alentours de 200 000 pendant tout le quinquennat Sarkozy-Fillon. Évidemment, il y a eu une montée récente assez modeste en réalité, due à l'asile et à l'afflux des Syriens. Alors si on prend le point le plus bas 2007, le point le plus haut en 2016, oui, ça fait une montée, mais en réalité, il y a eu des oscillations. Et quand on regarde composante par composante, le regroupement familial n'a quasiment pas bougé. Il y a un petit peu une reprise sur les socialistes parce que les dossiers étaient retardés sous Sarkozy. Mais enfin, il faut bien exécuter les droits. La seule montée significative et forte, c'est les étudiants. Passé en gros de 40 000 à 60 000, enfin, j'arrondis fortement les chiffres, évidemment. Il y a eu la petite montée très récente de l'asile, qui évidemment était inévitable, et tout le reste, la migration matrimoniale, c'est-à-dire les conjoints de Français, la migration de travail, tout ça. La migration de travail a monté sous Sarkozy, puisque Sarkozy a réintroduit la possibilité pour des migrants d'entrer directement au titre du travail. Mais ensuite, ça a été maintenu à des doses homéopathiques et c'est resté à 8% du total. Donc au total, on a une stabilité.
On a une politique migratoire, en tous les cas, une réalité migratoire qui ne bouge pas pendant toutes ces années.
Alors, elle ne bouge pas parce que, si vous voulez, contrairement à ce que raconte Marine Le Pen, nous ne sommes pas face à une gigantesque migration. migration incontrôlée. Nous contrôlons beaucoup. Il y a énormément de contrôles. Par exemple, la migration matrimoniale, il faut une certaine durée de séjour de la part du demandeur. Il faut il faut des revenus. Il faut et les maires ont maintenant, depuis la loi Pasqua, ont le droit de vérifier la réalité de la vie commune. Bon, donc ce sont des contrôles extrêmement précis. Le droit d'asile n'est pas encore accordé n'importe comment, puisque les taux de décision positive ont été très très faibles, sont même descendus à 7% sous Sarkozy, mais ne sont pas très élevés pendant tout le début du quinquennat Hollande, sauf quand il s'agissait de Syriens ou d'Afghans.
Oui, on a vu la différence avec l'Allemagne.
Ce que je voulais dire, c'est quand même un paradoxe de prétendre que l'immigration serait totalement incontrôlée, sauvage, que les frontières seraient des passoires. C'est la même chose pour l'Europe. L'Europe n'est ni une forteresse, ni une passoire. On est dans une situation intermédiaire où on a une assez grande stabilité des flux, sauf avec la crise récente. Et là, c'est l'Allemagne qui a pris à sa charge le plus gros de l'accueil des réfugiés.
Alors, on a cette situation. Donc, vous dites, au fond, ces politiques migratoires, elles n'ont pas d'effet sur cette réalité migratoire. Mais on a donc... le Front National qui dit oui, mais on va supprimer tout ça, on va supprimer 200 000, leur proposition, c'est d'arriver à 10 000 personnes par an, grosso modo. Mais qu'est-ce que le statisticien, démographe et sociologue que vous êtes dit par rapport à une proposition comme celle-là?
Alors, le statisticien ou le démographe, il condamne pas comme ça, dans l'absolu, au nom de je ne sais quelle idéologie. Il fait d'abord des comparaisons internationales et puis des comparaisons dans le temps. Voilà, comparer dans le temps et comparer dans l'espace, c'est le cœur de notre travail. Et il essaie aussi de bien comprendre les ordres de grandeur, de donner le sens des proportions. Alors, il faut savoir que Marine Le Pen a varié dans ses déclarations pendant de longues années. C'était les 200 000 titres de séjour donnés à des migrants non européens qu'il fallait diviser. D'abord, elle a dit par 10, puis elle a dit par 20. Donc, 200 000 à 10 000. Et puis, en 2015, assez abruptement, Philippot a tout à coup changé, a dit non, c'est un solde migratoire, c'est une différence entre les entrées et les sorties. C'est pas le flux des entrées, c'est les entrées moins les sorties. En réalité, les entrées de migrants, telles que maintenant l'INSEE est capable de les estimer à partir du recensement annuel tournant, c'est de l'ordre de 150 000. Donc, qu'on divise par 20 le nombre des entrées ou par 15 le solde, c'est la même chose. C'est une quasi-abolition de l'immigration. Par rapport aux 66 millions d'habitants, c'est rien. J'ai calculé, par exemple, que si on prend le Japon, qui est le pays occidental le plus fermé, avec très peu d'immigration, eh bien, même le Japon, au rythme actuel, accueillerait 15 fois plus, proportionnellement à sa population, de migrants que la France dans le programme Le Pen. C'est irréalisable. Aucun pays occidental ne peut pratiquer une telle politique. Il n'y en a pas d'exemple. Et une des raisons, c'est que par exemple, il faudrait supprimer le regroupement familial. Mais supprimer le regroupement familial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et là, il faut s'interroger, quels sont les exemples historiques qu'on a de ça? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les pays communistes avant la chute du mur, qui avaient très peu d'immigration, sauf l'Allemagne de l'Est à la fin, qui commençait à avoir beaucoup, les Mozambicains, les Vietnamiens, enfin les Hongrois, etc., migraient. Interdiction de regroupement familial, c'était une rotation de travail organisée, et si une femme tombait enceinte, elle devait avorter ou repartir. C'était drastique. Et les chercheurs allemands, actuellement, étudient beaucoup la façon dont fonctionne la politique migratoire. Et l'autre exemple qu'on a, alors c'est très différent, c'est des quantités de migrants sans rapport, mais c'est les pays du Golfe, où là, on peut avoir jusqu'à trois quarts de la population qui est composée de migrants, parce que ces grandes tours, n'est-ce pas, qui montent comme des flèches dans les grandes villes du Golfe, elles n'ont pas été construites par n'importe qui, ce sont les migrants qui les ont construites. Et il y a un système de sponsors qui encadrent rigoureusement les gens, qui les séparent nuit et jour de la population, aucun contact n'est possible, le regroupement familial est interdit. Donc, ces deux exemples-là sont quand même intéressants parce qu'ils montrent qu'on ne peut supprimer le regroupement familial et donc se mettre au banc des nations, en quelque sorte s'abstraire des droits internationaux, des droits de l'homme, qu'à une condition bien précise, c'est une formidable coercition. qui est complètement incompatible avec un régime démocratique. Donc, et
il faudrait un régime au moins autoritaire.
Ah, il faut un régime hyper autoritaire pour arriver à faire ça. Et l'idée, par exemple, que si on supprime le regroupement familial, imaginez que tout à coup, vous interdisez aux conjoints de se rejoindre, vous interdisez aux enfants d'aller rejoindre les parents. Bah, ça va déclencher des mouvements illégaux, des mouvements clandestins, les gens vont se rapprocher. Ah non, le Front National nous dit que l'immigration clandestine sera combattue plus que jamais. Donc, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, on n'a aucun exemple historique actuel, mais même depuis plusieurs décennies, de ça. Ça n'est pas possible, tout simplement. Mais ce qui me frappe, moi, c'est le caractère totalement improvisé, et enfin l'amateurisme incroyable du Front National quand il bascule comme ça d'un chiffre à l'autre, quand il n'a aucune idée des ordres de grandeur, il n'a aucune idée des catégories, il n'a aucune idée des moyens juridiques que ça met en œuvre. Et il faut quand même rappeler que les droits de l'homme, c'est pas quelque chose qui peut comme ça sauter au gré d'une élection. Ce qui a été voté, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée au Trocadéro, au palais de Chaillot, hein, c'est pour ça qu'il y a une place des droits de l'homme là-bas, en 1948, c'est après 65 séances de travail entre la quasi-totalité des pays du monde. Vous voulez comme ça abolir ça à la faveur d'une élection et dire non, la France désormais va par référendum décider que les enfants n'ont plus le droit de rejoindre les parents, que les conjoints n'ont plus le droit de vivre ensemble. C'est totalement exclu.
Pour montrer l'absurdité de ces idées, je voudrais vous citer François Héron. Vous dites « L'idée qu'on puisse stopper ou même suspendre des composantes entières de l'immigration pour plusieurs années, comme la migration familiale, relève du même songe éveillé. C'est comme si on demandait aux Français de s'abstenir de vieillir pendant 3 ans pour rééquilibrer les comptes sociaux. »
Oui, c'est du même genre d'impossibilité. Et alors, évidemment, Marine Le Pen, maintenant qu'elle est dans une deuxième étape où il faut essayer de ratisser le plus large possible, dit un moratoire. Je ne vais pas arrêter. On va faire un moratoire de quelques semaines pour étudier les conditions. Enfin, ça fait 30 ans ou 40 ans que le Front National nous parle d'immigration et l'étude des conditions, il avait tout le temps de les faire. C'est pas entre deux tours d'une élection présidentielle que tout à coup on se met à réfléchir sur les possibilités légales mettre fin à l'immigration.
Mais ce qui est frappant, juste pour terminer, François Héran, c'est quand même, au-delà de toutes ces incohérences, la facilité au fond avec laquelle le Front National est parvenu à être ce que vous appelez immigrationniste, c'est-à-dire à mettre cette question au centre, à la mettre posée d'une façon qui n'a aucun sens, mais à être pris au sérieux pour ça par des interlocuteurs, que ce soit des adversaires politiques ou des commentateurs.
Écoutez, alors sur... moi, par exemple, je ne me prononce pas sur les questions économiques, la sortie de l'Europe, l'euro, etc. Mais sur les questions de migration, je fais partie, je pense, des rares personnes qui ont lu très sérieusement la littérature du Front National, qui l'ont suivi année après année. Nous sommes une poignée de chercheurs à avoir fait ça, sur la question de l'immigration. Et je suis extrêmement frappé de voir qu'il n'y a jamais d'analyse sérieuse, d'analyse de fond. Et quand vous vous donnez la peine d'écouter des meetings entiers de Marine Le Pen, c'est la vocifération de formules choc, mais c'est jamais de véritables analyses.
Merci beaucoup François Héran. Je rappelle le titre de ce livre, Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir. Il est publié aux éditions La Découverte. Vous trouvez la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter autant de fois qu'il vous plaira cette émission, sur laquelle vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet, à la technique aujourd'hui, Claire Levasseur, à la réalisation, Romain Masson. Et c'est la conversation scientifique d'Étienne Klein que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.